Bienvenue dans Crossroads numéro 134, l'émission qui s'intéresse à toutes les musiques et qui donne la parole à celles et ceux qui les font vivre et prospérer. Ce Crossroads célèbre un dialogue Nord-Sud, plus précisément France et Algérie, à travers deux groupes et artistes représentatifs de cette mouvance. Le groupe en question s'appelle Mademoiselle, étrange nom pour une réunion au sommet, celle de Rodolphe Burger, Sofiane Saïdi et Mehdi Adab, au service d'un projet hommage à Rachid Taha. Quant à l'artiste, il s'agit du compositeur-guitariste-chanteur Nasser Ben Dadou, à la tête de son groupe White Feet, qui revendique et exprime une double influence Occident et Afrique subsaharienne. Deux expériences live et deux rencontres interview, respectivement au Train Théâtre le 29 mars et au Salès Blues Festival le 14 avril. Également, d'autres musiques proches dans ce Crossroads qui, à défaut d'être exhaustif, présente une palette s'inscrivant dans cette esthétique, à commencer par Rachid Taha. Je suis africain, ultime album réalisé par Rachid en 2019, sorti posthume donc, puisqu'il est décédé en 2018. Vision sonore d'un artiste qui a creusé inlassablement, fruit de deux cultures, un sensillon identitaire. Sur le titre à suivre, intitulé Wadi, Rachid Taha est ici accompagné par Flesh Love.
Thank you.
place à notre premier reportage consacré au projet Mademoiselle. Ce groupe, ou plutôt ce trio, est composé de Sofiane Saïdi au chant et aux machines, Mehdi Haddad au oud électrique et Rodolphe Burger au chant et à la guitare. L'objectif était de partager un vécu, celui de Rachida, bien sûr croisé avec ses ex-collègues et amis entre France et Algérie. Sofiane, chanteur raï admiré par tous, expert en électronique, recommandé alors par Rachid auprès de Rodolphe, a fait partie du show Le Cantique des Cantiques. Mehdi, virtuose du oud, leader par ailleurs du groupe Speed Caravan, a partagé nombre de projets avec Rodolphe Burger. Enfin, ami avec Rachid depuis l'adolescence, Rodolphe et Rachid donc ont grandi ensemble en Alsace, à Sainte-Marie-aux-Mines. Le grand moment de partage fut en 2015 le groupe Couscous Clan, réunissant les musiciens des deux artistes qui partagèrent alors leurs répertoires respectifs. De suite, premier extrait de Mademoiselle, vous êtes belle Mademoiselle, avant de retrouver Rodolphe Burger en interview au Train Théâtre le 29 mars dernier.
Vous êtes belle, mademoiselle.
Bonjour Rodolphe Burger.
Bonjour.
Donc on est ensemble ce soir pour le show Mademoiselle.
Oui.
Alors, il y a eu Couscous Clan, Il y a eu malheureusement la disparition de Rachid. Est-ce qu'on peut dire que ce projet Mademoiselle, c'est quelque part une évidence, une suite logique en tout cas?
Bah oui, le, on l'a dédié notre disque à Rachid, c'était bien sûr. C'est sûr que s'il n'y avait pas eu Rachid, il n'y aurait pas eu Mademoiselle, il n'y aurait pas eu ce trio. On s'est rencontrés d'ailleurs avec, avec Sofiane, on se connaissait un peu avant, mais surtout on s'est retrouvés à la mort de Rachid. Et Rachid aimait beaucoup Sofiane comme chanteur. Il allait dans les cabarets l'écouter, tu sais, c'est un vrai chanteur de raï, quoi, un pur chanteur de raï. Et c'était évident pour moi aussi, on a fait quelques concerts du Couscous Clan après la mort de Rachid, dont un mémorable à Aubervilliers avec Justin Adams, qui a produit l'album Zoom. Zoom sur Oum, l'album de Rachid. Bref, c'était évident que le seul qui pouvait, non pas remplacer Rachid, mais être à la place de chanteur, c'était Sofiane. Donc, et puis après, alors c'est vraiment, ça s'est fait à la faveur d'une proposition. Il était en résidence à Banlieue Bleue et on lui a proposé un one shot, comme on dit, c'est-à-dire une création qui aurait pu être qu'un concert en trio. Mehdi, je le connais depuis bien longtemps, on a fait toute l'aventure avec Eric Marchand, le Cantique Darwish, donc on a vraiment l'habitude de jouer ensemble.
Before Back,
et puis le dernier, Glückauf. C'était évidemment très tentant de faire un concert à trois comme ça, mais je pensais pas que ça irait si loin, quoi. Et directement, on a à peine répété un jour et demi, on a mélangé un peu nos répertoires au départ. Mais c'est aller très vite et très loin. Je veux dire, on le sent, quoi, quand il y a quelque chose qui va au-delà d'une... Bon, il peut y avoir une jam, un truc sympa, une rencontre, là, c'est tout à fait autre chose. C'est très profond, c'est très... Ça s'est imposé l'idée d'aller faire un album, quoi. Il fallait faire un disque, et donc on a fait un album. Dans mon studio, en Alsace, dans la ville de Rachid, et c'est vrai que, bon, voilà... Couscous Clan, c'est un peu les prémices de cet album-là. Sauf qu'avec avec Rachid, on était plus dans des... On mixait des morceaux, on faisait des versions en arabe de Take a Walk on the Wild Side, des choses, où moi je chantais en alsacien sur Abdelkader, enfin... C'était très joyeux les concerts et tout. Mais là, on a été plus vers des compositions, et on fait un truc qui... avec Sofiane Saïdi, qui est très très rare, qui est de partager le chant lead. Alors, Dieu sait qu'on n'est pas dans les mêmes registres de voix. On a réussi à trouver sur chaque morceau une façon de partager le chant lead, d'alterner, de se répondre, sans être dans les trucs des duos. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de très unique. Moi, que j'ai jamais... Si avec un peu... Avec Eric Marchand, c'est ce qui se passait. Mais là encore, enfin voilà, c'est à l'échelle de l'album, sur chaque morceau, on a trouvé cette solution. C'est un bonheur de jouer avec eux. Hein, à chaque fois, c'est la fête, quoi. C'est vraiment une fête musicale, quoi.
Donc il y a un pont, évidemment, Occident-Algérie, d'un titre à l'autre. Mmh. Ça sent le vécu aussi. Hein. Le titre 504, franchement, qui n'a pas connu quelqu'un qui allait vendre une bagnole là-bas?
Exactement. Et puis le refrain, j'ai écrit à partir de récits que m'a fait Sofiane sur cette fameuse route de la Corniche, le tunnel, le Santa Cruz, où on signe en passant pour saluer la Vierge qui est au-dessus, pour vous, c'est pour le bonheur, parce que bon, on va au cabaret, donc on sait pas dans quel état on va revenir. La route de la Corniche est dangereuse, enfin bon. Hein.
Donc, je me suis dit, est-ce que Rodolphe il est allé se promener par là-bas?
Et ben, on y est allé après l'album. On est allé, on a fait récemment une tournée en Algérie qui était fantastique. Vraiment, on était à Oran, bien sûr, mais partout, on était à Alger, on était à Tlemcen, on était à Constantine, et c'était incroyable. Le public algérien, comment il a reçu ce projet, il reçoit à 200%, quoi, parce qu'il comprend tout de A à Z et ça le galvanise, quoi. C'était vraiment des concerts extraordinaires.
Avec beaucoup d'émotion, j'imagine.
Ah ouais, absolument. Et alors qu'on voit l'état des relations là en ce moment,
oui,
en Algérie, c'est vraiment dingue. Et quand tu imagines peut-être que là-bas, tu vas marcher sur des œufs, t'es français, tu vas être regardé, pas du tout. pas du tout le public très jeune. Il n'est pas du tout, il est au-dessus de ça complètement. Il mange la musique, il est affamé de.
Ils n'ont pas pléthore de.
C'est sûr.
De concert. Hein.
C'est ça. Ils ne sont pas gavés de culture.
Non. Ils ne sont pas blasés, c'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà, c'est ça, exactement.
Et je parlais d'émotion parce qu'il y a. Embrasse pour moi Marie, c'est
oui,
ça.
Oui.
Vraiment l'émotion, elle est à fleur de peau.
Ah ouais, ouais.
C'est quoi le message?
Voilà, c'est une chanson. Au départ, c'est une chanson que je reprends depuis les tout débuts de Catonoma. D'abord, c'était Take a Message to Mary. C'est une chose. Ça appartient à presque une catégorie du blues. C'est les jailhouse blues, quoi. Les blues des mecs qui sont en prison. Et je trouve très 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 déchirant ce message de embrasse Marie pour lui dis pas que je suis en prison. Quoi. C'est vraiment très fort. Comme texte, comme émotion. Et au départ, donc j'ai proposé qu'on reprenne ça. Et donc là, il s'agissait pour Sofiane de trouver la réponse avec sa voix. Et il s'est vraiment cassé la tête pour trouver. Je me souviens en studio du moment où il a trouvé. C'était extraordinaire. On était là, on était complètement pétrifiés. Quoi. C'était un moment d'émotion en studio pour tout le monde. Il y avait une petite assistante qui allait pleurer. Enfin, c'était incroyable. Parce qu'il a trouvé tout d'un coup une manière de transformer l'enchaînement blues des accords en un mode rail. Et donc, c'est vraiment un des grands moments du studio. Quoi. Il y en a eu beaucoup, mais celui-là particulièrement, c'était fort.
Du tunnel de Santa Cruz. J'ai quitté Bellabès, je file sur la route de Corralès. Je connais les adresses, Notre-Dame des cabarets. Je vous salue, je vous klaxonne, je vous klaxonne, je vous salue. Vous la Madone du tunnel de Santa Cruz.
Le poids des textes, on n'aura pas le temps ce soir, mais on aurait pu évidemment évoquer Avalanche, hein, quand on parle du poids des mots. Hein,
ouais.
Mais il y a Pierre Alféri,
oui, bien sûr,
qui a collaboré aussi quelque part sur Mademoiselle.
Sur Mademoiselle, bah oui, j'ai parlé de l'éventualité de transformer le désert, de l'adapter. Le désert, qui était une chanson de Cantonama, écrite par lui à l'époque, d'après Jack Spicer.
J'aime bien reprendre comme ça des titres de Cantonama, hein, de les retravailler
quelque part. Oui. J'aime bien ça, j'aime bien qu'il y ait des...
Cantonama n'est jamais mort.
Ah non, 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 c'est vrai, absolument. Pour moi, c'est un répertoire vivant, j'ai toujours envie de reprendre des morceaux, de les citer, de... Et donc, c'est devenu Sahara Malakoff. En fait, Malakoff, c'est vraiment le private joke, là. C'est vraiment, je cite Malakoff parce que c'était la ville où habitait un ami commun de Pierre Alféri et moi, un très grand poète qui s'appelait Emmanuel Occart et qui vivait à Malakoff. Et c'est lui qui m'a fait découvrir Jack Spicer. Donc voilà, bon, bref. Donc on cite, on fait, c'est des petits saluts comme ça, là, à travers les chansons.
Alors oui, on parlait des mots. De Pierre Alféri, bien sûr, il y a eu Olivier Cadjo aussi.
Bien sûr, toujours, il y a toujours.
Toujours, bien sûr. C'est pas du passé.
Oui.
Et puis sur Avalanche, c'est cette ambiance très particulière au niveau des sons. Mm. Ça peut m'évoquer quelque part Planétarium, mais vraiment,
c'est vrai, avec quelques
pincées, mais tout de même, malgré tout.
Non, mais c'est juste, oui, tout à fait. Et un peu météor chaud aussi, mais cet environnement plus électronique avec des détails, des choses, des sons concrets, des choses. Et là, c'était, c'est un album qui me tient à cœur parce que bon, c'est le dernier, et puis il est dédié à Pierre Alféri, c'est sûr.
Ouais.
Mais là, ça a été le résultat d'une collaboration formidable avec Christophe Calpini et Blaise Caillet, qui est un que je connaissais pas, qui m'a présenté. Mais Christophe est devenu vraiment une sorte de, un partenaire incroyable. J'ai découvert par Sébastien, hein, qui m'avait fait écouter. C'est Alain qui m'avait fait écouter à l'époque, je me souviens très bien, des morceaux d'un groupe qui s'appelait. C'était un groupe électro-suisse. Il me dit, j'écoute ça, et c'est personne ne connaissait. Hein, et je trouve pas assez bien et tout. Et c'était effectivement très intéressant.
Pas Yellow, non.
Non, 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 non. Non, c'était un groupe vraiment en confinement, un groupe de Christophe. Oui. Et donc, il a contacté Christophe. Ils ont collaboré sur L'Imprudence. Ils ont fait moins de deux morceaux, si c'est pas plus. Par ailleurs, c'était un grand ami, Christophe, d'Alberto Malo, qui est le batteur avec qui j'ai beaucoup joué, qui a joué avec Truffaut. J'ai fait une chanson sur son nouvel album, Alberto. Alberto me disait, il faut absolument que tu rencontres Calpini, quoi. C'est quelqu'un, vous devez vous rencontrer, c'est vrai. Il y a des rencontres en effet qui sont nécessaires, et celle-là elle a été. Alors je suis allé à Lausanne parce que c'est quelqu'un qui déteste voyager, donc il fallait que j'aille le chercher sur ces terres. Et donc on a collaboré beaucoup sur Good environ, on tourne ensemble, et sur Avalanche, je dirais que c'est encore, on est deux sur scène. C'est une sorte d'aboutissement de cette collaboration.
C'est moins facile d'accès quelque part. On a tendance à dire qu'il faut écouter plusieurs fois l'album.
C'est vrai, peut-être, oui. Mais oui, il est dense. C'est vrai que j'ai mis beaucoup en termes de texte. Ouais, mais moi, je trouve. Enfin, voilà, moi, ce qui me plaît, c'est d'avoir Mademoiselle d'un côté, Avalanche de l'autre.
C'est incroyable.
Quoi.
T'aimes bien comme ça, hein, passer d'un univers à un autre.
Oui, et puis des effets de contrepoint, quoi. Ça, pour moi, les deux sont nécessaires.
Puis il y a un texte d'Ilan Thomas également.
Oui, absolument.
Qui avait poète aussi, très important.
Et sur Planétarium, il y en avait déjà un. Le morceau Chute, il venait déjà de ce texte incroyable, Wooden, le bois lacté de Ilan Thomas. Ilan Thomas qui a déclenché plein de vocations de poète quand il a fait sa tournée américaine et qui a donné son pseudonyme à Bob Dylan. Hein.
Oui.
Ça vient de là.
Pour conclure, mademoiselle, c'est qui mademoiselle? Pourquoi ce nom?
Pourquoi ce nom? Tout le monde nous le demande.
Oui, bah oui, moi aussi.
Bah, en fait, c'était une chanson au départ. Hein. C'est une chanson qu'on a reprise. Et c'est aussi une chanson qu'on avait faite avec Pierre Alfieri à l'époque de Nos Sports. Ça fait partie des inédits de Nos Sports. Donc il y avait déjà une version de Mademoiselle. Puis je l'ai proposé à Sofiane Mehdi, donc on en a fait une nouvelle version. Et on s'est dit pourquoi pas, c'est tellement absurde. Nos trois troncs s'appelaient Mademoiselle. En plus, c'est très mal vu en ce moment, mais ça, on s'en fout. C'est quand même un joli mot, Mademoiselle. Et puis, l'autre truc, l'autre coïncidence, c'est que le bar à côté de chez Rachid s'appelait Mademoiselle. Là où il donnait ses rendez-vous.
Rodolphe, merci beaucoup.
Merci à vous, ça fait plaisir de se retrouver. Bah, à tout à l'heure. Hein.
Ouais, merci.
Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. We'll be right back.
Quoi de plus évident pour conclure cet hommage à Rachida qu'un extrait du Couscous Clan, groupe éphémère mais ô combien réjouissant, qui a ensoleillé les scènes du festival au cours de l'été 2015, réunissant pour l'occasion Rodolphe, Rachid et leurs musiciens respectifs, croisant leur répertoire plus quelques reprises inattendues pour le plaisir communicatif d'être ensemble. Titre choisi, l'ordonnance. On ne quitte pas tout à fait le sujet, car il est temps de découvrir ou redécouvrir le groupe de Mehdi Adam, Speed Caravan, grâce au disque Big Blue Desert, fusion entre rythmes africains ou subsahariens et sonorités occidentales plus axées vers le rock. En illustration, le titre « These Days ». Thank you. l'instant le blues du désert avec le guitariste Bombino, souvenir de trance au live 2018 du festival du bout du monde de Crozon. Le reportage à venir concerne le guitariste, chanteur, compositeur, bluesman Nasser Bendadou. Il se produisait le 4 avril dernier au Salès Blues Festival afin de présenter son récent album Blue Legacy. Écriture forte et personnelle qui reflète ses émotions, son vécu, ses aspirations via une musique qui oscille entre Chicago Blues, Mississippi et Afrique, aboutissant à un blues sans frontières. Accompagné par son groupe marseillais, les White Feet, Nasser distille son blues grâce à une voix évocatrice et puissante et un jeu de guitare à la fois incisif et cristallin. Ce natif de Marseille, installé en Saône-et-Loire, incarne un blues reconnu et apprécié par ses pairs, en témoigne son trophée Blues Challenge qui lui permit de représenter la France et d'être finaliste de ce concours à Memphis. Premier extrait de ce Blue Legacy, Yema, avec comme special guest sur ce titre Vieux Farcatouré, avant de le retrouver en interview à Salès-sur-Sanne en cet après-midi du 4 avril 2025.
دنيا يا دنيا شحال خفت عليا يا اختي نعيمة شحال بكيت معايا يا خويا احمد يا خويا صغير شباب مشيت علينا يا حبابي يا حبيبي الكبدة شحال صعيبة يا يما الرحمة يا دنيا يا دنيا الليلة شحال طويلة يا قمرة يا قمرة الشمعة شحال كثيرة يا يما يا يما نفمك حالت لينا يا يما يا يما فك حجرك شحال ضحكنا يا حبابي يا حبيبي شكون تحلى فينا We'll be right back.
canina.
Bonjour, Nasser Bendadou.
Bonjour.
Bienvenue à Salès Blues. Est-ce que tu connais par ailleurs le festival, qui est déjà venu ou pas?
Ouais, j'étais là l'année dernière, j'étais pas ici sur la main stage, sur la scène principale. J'avais joué au conservatoire à Saint-Clair-du-Rhône et à la médiathèque de Salès. Et j'ai fait une intervention, on va dire, pédagogique avec le conservatoire. Donc je connais toute l'équipe et je connais surtout la réputation de ce bon vieux festival.
Qui fêtait ses 25 ans d'existence il y a un certain temps déjà. Donc
Une Sainte Catherine avec quelques années de plus.
Ouais. C'est une bonne nouvelle que des festivals de blues perdurent en France, notamment. C'est pas, je veux dire, par les temps qui courent, avec les contraintes inhérentes au budget, c'est bien que les festivals vivent.
Ouais, c'est bien. La chance peut-être qu'on aurait dans le blues, et si les gens m'entendent, je voudrais dire que souvent, c'est bien sûr qu'il y a des grandes stars qui dont les budgets sont très gros, mais à part Cognac ou des gens comme ça où ils font passer Santana ou je ne sais qui, les festivals de blues en France, on sait faire quand même avec beaucoup de bluesmen, même américains, mais qui sont raisonnables au niveau des tarifs, et des bluesmen locaux en France qui restent abordables, et donc il y a un équilibre financier à trouver entre des artistes, même locaux, et le public. Voilà, je pense que c'est peut-être 5, finalement, malgré la fin d'un certain nombre de subventions. Le blues devrait s'en tirer, comme d'habitude. On est des gagnes petits.
Bluesman et blueswoman. Exactement. Parce que les filles sont de plus en plus présentes sur la scène blues, j'ai l'impression. Il y en a beaucoup.
C'est ouais, et c'est fabuleux. Je pense à mon amie Tia.
Tu connais.
Oui, bien sûr. Ouais. Et justement, ça fait très plaisir parce qu'on renoue du coup avec une tradition du blues. Parce qu'au départ, le blues ou même dans le jazz, on avait des grandes chanteuses comme Bessie Smith et bien sûr après Billie Holiday, même si elle est, on va dire, étiquetée jazz avec Count Basie. Tout ça, mais c'est une chanteuse de blues dans sa vie, d'où elle vient, et c'est bien aujourd'hui qu'on redonne la place aux femmes dans le blues, quoi, ouais. Et sortir du cliché, le bluesman un peu moitié alcoolique avec sa grosse voix et tout. Merde, je parle de qui là? Juste, pas de moi.
Enfin, c'est un cliché.
C'est un peu un cliché, c'est un peu un cliché. Et je crois que demain, aujourd'hui, je crois que je suis invité avec Just Tape et Del Grey sur la soirée de ce soir. Et c'est Blues du Monde. Et demain, je crois que c'est une soirée, par contre, blues féminin, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est parfait. Ouais, c'est parfait.
Alors, les White Feet, c'est ton groupe, c'est bien ça, le groupe habituel?
Ouais, c'est mon groupe. C'est la bande de Marseille, des musiciens de haute volée, pour la plupart comme Mathieu Tommy, le bassiste, avec qui je joue depuis 26 ans, et Pascal Versini, le pianiste organiste, et Rob Iron, le plus anglais des Marseillais, le plus marseillais des Anglais, à la batterie depuis une dizaine d'années. Voilà, ils arrivent là, on les attend.
Donc c'est une histoire de fidélité quelque part, hein. Je veux dire, sur le plan humain en tant que musical.
Ouais, il y a de ça. Il y a bien sûr une organisation. Quand tu fais ce métier, il faut faire très attention, même si c'est tes amis, même s'il y a de la fidélité, des histoires, un peu comme dans un couple parfois, il faut faire quand même attention aux conditions financières, aux conditions de travail. Donc malgré notre amitié et tout, on a la chance d'avoir un producteur, un label, et avoir un milieu assez sain qui nous permet de vivre de notre musique, et surtout de gérer tout ce qui est les à côté, quoi. Et ça, c'est très important pour moi en tout cas dans ce projet que je lead, même s'ils sont très importants, d'avoir un truc où tout le monde est payé, tout le monde est respecté dans ce travail. Voilà, c'est important pour moi. Donc là, on joue sur la formule A4, qui est la formule de base de l'album. Donc on a des formules plus resserrées. On a selon les transports au code, jouer même en duo, à l'international, tout ça. Mais on a cette formule A4, et ce soir, on a la chance, et j'espère le public a la chance de nous découvrir A4. Ça sera plus proche de l'album, justement, ouais.
L'album Legacy.
Blue Legacy, ouais, l'héritage bleu, ouais.
Donc l'héritage, il est multiple chez toi, l'héritage.
Ouais,
On peut parler au pluriel.
Ouais, comme beaucoup de gens. Moi, je suis un fils d'immigré, je suis né à Marseille, mais je suis un fils d'immigré maghrébin, comme beaucoup de gens ici, immigrés italiens, arméniens, immigrés polonais, tu vois. Et donc, j'ai voulu mettre l'héritage, le blues que j'ai découvert très jeune et cette musique que je joue depuis 30 ans maintenant. Et aussi, j'ai voulu... partager mon héritage de l'histoire de mes parents. Donc c'est pour ça qu'il y a 2-3 titres chantés en arabe, avec des instruments du Maghreb, des bendirs, des karkabous, pour faire un peu comme ça un témoignage de ce que je suis aujourd'hui, quoi. Voilà, un peu ce mélange, quoi. Voilà.
Et j'imagine que tu as l'occasion de jouer, par exemple, en Algérie de temps en temps. Ça se passe comment ?
Alors, j'ai pas encore joué en Algérie. On a joué l'année dernière en Tunisie, ouais. À El Djem, qui est, je me suis pris pour Pink Floyd. En fait, ils ont un théâtre antique qui est aussi gros. En fait, c'est le plus gros théâtre antique africain. Après, ça ressemble au Colisée de Rome, un peu plus détruit. Ouais, c'est énorme. Et là, j'ai eu le plaisir de chanter 3 morceaux en arabe sur du blues. Et la réaction du public était juste excellente et j'adorais ça. Et ça, c'est prochainement, l'Algérie, c'est dans nos petits papiers, bien sûr, de retour aux sources. Et le Maroc aussi, parce qu'il y a une tradition, je suis très proche de la tradition des Gnawa, qui sont les descendants d'esclaves subsahariens au Maroc. Et ça fait le lien pour moi entre justement le blues, qui est quand même une grande part issue de la musique des champs de travail et tout, des esclaves. Donc j'aime bien faire retrouver la similitude entre ce qui s'est passé, la déportation, l'esclavage en Afrique, entre les Africains, avec le Maghreb qui faisait venir des Africains, et du Sénégal, du Mali, du Bénin, et aussi après plus tard aux États-Unis. Donc on a une sorte d'histoire commune comme ça, une malheureuse histoire commune. Mais heureusement que l'humanité, c'est parfois, tu sais, un peu comme, tu vois, une rose qui sortirait, qui éclorait sur du purin ou tu vois, de la merde, voilà, il reste au moins la musique. Ouais.
On peut parler de blues du désert ou là on est encore dans une autre dimension?
Alors mes inspirations, elles sont bien sûr, il y a le blues du désert, comme des groupes comme Tina Rewen, bien sûr tout ça, mais pas exactement. Je reste quand même, j'ai tenu à pas aller trop loin, à garder quand même un truc très blues. C'est plus par l'orchestration où j'ai mis des instruments, comme je te disais tout à l'heure, des percussions, où voilà, c'est plutôt ça. Je trouve j'adore le blues du désert et j'ai envie d'aller un peu plus loin, d'aller sur des rythmes du Mali. Par exemple, j'ai eu la chance sur un des morceaux qui est Vieux Farka Touré, le fils d'Ali Farka Touré.
Qui a collaboré sur l'album, hein,
tu vois, et aujourd'hui, Vieux Farka Touré, il est aussi grand que son père, quoi, de tournée internationale. On a eu la chance de faire une scène ensemble l'année dernière avec son septet, donc c'était fantastique de faire ce morceau sur scène. Et donc voilà, aller chercher vraiment carrément en Afrique, quoi, tu vois. Il faut pas oublier que je suis par mes origines, je suis aussi un Africain, même si je suis un Maghrébin, je suis un Africain et je suis nourri de tout ça, quoi.
Alors on parle de ça, c'est intéressant parce qu'on a rencontré très récemment le trio Mademoiselle qui fait un hommage à Rachid Taha, Rodolphe Burger, qui arrivait d'Algérie en fait, qu'on fait quelques dates là récemment. Ouais. Et qui nous disait que l'accueil avait été complètement incroyable, oui. Et qu'ils avaient presque peur d'y aller vu l'ambiance actuelle. Hein, voilà. Et finalement, à l'arrivée, c'était un public très jeune et c'était complètement fou, quoi.
C'est clair. Je crois que la musique permet ça. C'est-à-dire que malgré tous les rapports comme ça internationaux et tout, on peut aller dans certains pays qui sont entre guillemets chauds et rencontrer du monde et être accepté et accueilli. Tu vois, c'est comme moi, je suis allé il y a 2 ans jouer aux États-Unis, tu vois, à Memphis, Washington, New York, et tu vois les Américains, tu te dis, ouais, putain, merde, je vais me faire chier, je vais rester dans mon hôtel, aller bouffer des barbecues et du McDo, et faire mes dates. En fait, non, j'ai rencontré des gens formidables, des gens qui ont apprécié ma musique, et un accueil formidable. Les gens sont formidables. Après, ce que font les gouvernements entre eux, forcément, si on reste sur ça, mais les gens sont formidables. Et je me permets juste de dire un morceau sur Rachita, c'est vachement bien, un peu perpétuer sa mémoire par des projets. Bon, bien sûr, il y a Rudolf Berger qui était très proche de lui, parce qu'il a apporté énormément. Il est un peu issu de la musique rail et rock, quoi. C'est un hybride total, un peu méconnu. Je trouve, il n'a pas été mis assez en valeur en France. Il était un peu considéré, je ne sais pas, comme une sorte de rockstar arabe ou je ne sais quoi. Alors que, voilà, je pense c'est malheureusement après son décès qu'on s'est rendu compte du précurseur qu'il était, du mélange qu'il a su mettre, et voilà, dans un esprit vraiment rock'n'roll, et ça, ouais, voilà, ouais.
Un hommage. Et rock'n'roll aussi, il avait un caractère qui était des fois un petit peu rage vis-à-vis de certains médias, on va dire ça comme ça. C'est ce qui n'arrangeait rien.
Ouais, c'est clair. Tu sais, les gens dans ce métier, souvent, c'est des caractères entiers, souvent des gens blessés aussi, et qui ont des histoires parfois un peu douloureuses, et on vit dans un monde un peu aseptisé où on te demande beaucoup d'avoir une image, de montrer ceci ou cela. Et il reste des vrais artistes comme ça, qui dépassent, des grandes gueules qui dépassent les bornes. Du moment qu'on met pas la main au cul des filles, moi je pense que les artistes, c'est bien qu'ils fassent ce qu'ils veulent, quoi, tu vois. Ouais. C'est la limite, quoi.
Find no road you can follow, ever leave behind. Hold on, I'm coming, won't go back. Hold on, I'm coming, and I'm taking chance. Future is calling, tries to get past, wishing of forever to dust now at last. Let go, I'm gone, not look back. What's not forgiven, already fighting fast. Certain, all for the dream, all for tomorrow, this part for me, all for tomorrow and me. Heartland is forever, be a part. Futures are to follow, with faith in your heart. Feeling free now, already gone. Feeling is for me now, fortunate one. All is quite certain, all for the dream, all for tomorrow, this part for me, all for tomorrow, tomorrow and me. All for the dream, all for tomorrow, a new life for me, all for tomorrow, tomorrow.
En termes de collaboration, je crois que tu as travaillé avec les Mountain Men, notamment.
Ah non, j'ai pas travaillé avec les Mountain Men. On a partagé des scènes, on s'est croisés. J'ai fait le bœuf. On s'est beaucoup croisés ces dernières années. Tu sais, Mountain Men, à l'époque, ils étaient incontournables en France. Donc, ils étaient un peu sur tous les festivals et on s'est croisés X fois, quoi, tu vois. Mm-hmm. Voilà. Mais j'ai un grand respect. Je suis très, très heureux qu'ils se reforment dans cette formule duo. On les a connus, tu vois. Mathieu, après, il avait fait une carrière plus solo avec. Je les avais vus, Harmonica sur Cher, justement. On avait partagé une scène là-bas. Et voilà, il y avait une formule rock'n'roll
avec qui était... Denis Barthes à la batterie.
Exactement, ouais. Exactement. C'était chouette, mais c'est toujours pareil. Tu sais, quand t'as rencontré, tu te souviens de la, quand t'as rencontré ta femme, tu te rappelles de ses yeux la première fois que tu l'as vue. Et donc les Mountain Men, pour moi, je les ai vus en duo. Et maintenant, je suis très heureux de retrouver cette femme avec ses comme elle était il y a 15 ans. Quoi. Voilà, c'est un peu ça.
On parlait de Memphis. Bon, bien sûr, c'était le Challenge Blues que tu as gagné, ainsi que de nombreux prix à Cahors, peut-être bien, fait, un peu partout. Hein. Ouais. Finalement, tu as une reconnaissance internationale grâce à ces prix, et surtout l'occasion de rencontrer d'autres monde. Artistes.
Ouais. J'ai mon Mathieu, mon bassiste, qui me dit, Nasser, on est des poneys de concours. Alors, je vais pas te mentir, tu vas toujours un peu comme ça, disant, le concours, qu'est-ce qu'on s'en fout et tout, mais en fait, ça fait toujours plaisir. C'est une certaine reconnaissance. Représenter la France à Memphis, devant 172 formations, arriver en finale, d'être dans le dernier carré de tête, c'est quand même énorme. Ce qui m'a beaucoup touché, justement, ce que je te disais, j'ai chanté j'ai une chanson sur mon album qui s'appelle Yema, qui veut dire maman en arabe. Et même si les Américains ne comprenaient pas les paroles, ils venaient tous me voir après, me dire ta chanson est magnifique, on ne comprend pas les paroles. Et tu vois, alors que tu te dis putain, non, merde, chanter en arabe, du blues, à Memphis, tu vois, sur leur terre, tu vas te faire défoncer. Pas du tout. Les gens nous ont même félicité pour cela, quoi. Bon, voilà.
Et la scène blues à New York, ça ressemble à quoi? J'imagine mal, moi, des concerts blues à New York.
Il n'y a pas grand-chose. J'ai joué... alors, c'est rigolo, il y a à Harlem, il y a le Shrine. Le Shrine, c'est tenu par un francophone, c'est un Burkinabé qui a vécu en France. Et donc, il a ouvert un club là-bas, 3 groupes par jour, toute la semaine. c'est incroyable. Une machine de guerre, tout style musicaux. Et voilà, New York, c'est un peu ça, une grosse place au jazz. Et bien sûr, il y a des clubs magnifiques de jazz. Alors, le blues a pas une grande place, mais par exemple, dans ce club à Harlem, on peut jouer le blues. En même temps, New York n'a jamais été vraiment la terre du blues, quoi. Aux États-Unis, ça n'a jamais été, voilà. Ça, on va dire, sa grande sœur Chicago ou sa petite sœur, voilà, c'est vraiment la terre du blues, du coup, électrique.
Ouais. Le Mississippi, le Delta,
complètement.
Et Chicago, évidemment. Avec une toi, t'es autant rock que blues quelque part. Hein. T'aimes bien quand ça envoie, non?
Moi, je suis blues, mais j'aime bien quand ça envoie dans le blues.
Bien sûr, dans le blues.
Parce que j'aime pas trop ce qu'on appellerait le blues rock. Ouais. J'aime pas dès qu'on met trop de distorsions, qu'on commence à jouer en force. C'est pas mon truc.
C'est
pas mon truc. Alors qu'il y a énormément de force en jouant avec les codes du blues, on peut mettre énormément de force plutôt en reprenant justement ce qu'on fait en Afrique par le côté trance répétitif. Voilà, c'est plus ça. Je vais chercher ma force plus dans ça que dans des sons, on va dire velus. Grosse guitare. C'est pas mon truc, la grosse guitare. J'ai vieilli maintenant. Voilà, ces petites guitares.
Tu utilises toutes sortes de guitares. Je crois que t'as une Dobro, non, notamment, non?
Ouais, j'ai des Dobro.
C'est un son incroyable, ça.
Ouais. Mais là, ce soir, je vais jouer principalement ma Telecaster, parce que la Telecaster en électrique, je joue ça depuis que je suis gamin. En slide, je vais jouer une vieille guitare de 1937, une sorte de Gibson, une quart de caisse. La guitare, c'est un peu, tu vois, on est comme les amoureux de voitures, quoi. Il y a, je sais pas combien de guitares j'achète, et je revends et j'échange, et je ne sais pas pourquoi. En fait, parfois, c'est presque plus, par une sorte de hobby que finalement, qu'un vrai besoin, tu vois, artistique, quoi, tu vois, ouais.
Des coups de cœur.
Les coups de cœur, ouais. On est souvent comme ça, beaucoup de guitaristes et tout, on aime avoir... Bon, il y a quand même un panel de guitares que je pense qu'il faut avoir pour un musicien qui joue du blues. Il faut avoir une super bonne guitare acoustique, je pense que c'est important. Et une bonne guitare électrique. Et après, bien sûr, avoir des petites sonorités. Si tu as une dobro, c'est génial, quoi, tu vois. Une guitare un peu plus swing, une quart de caisse, voilà, il faut avoir... Tu vois, déjà, je te cite 4-5 guitares. C'est, tu vois, pour m'excuser auprès de toutes mes compagnes d'avoir mis plus dans mes guitares que dans nos voyages à Venise ou je ne sais où.
Tant qu'elles sont d'accord.
Ouais, sur le moment, elles sont d'accord. C'est quand elles te quittent qu'elles sont moins d'accord.
Un petit mot sur les masterclass, l'aspect pédagogique de ta démarche, les interventions dans les écoles, ouais. Notamment, ouais. Ça c'est incroyable, ça, c'est la sensibilisation auprès des plus jeunes.
Ouais. Là, je suis intervenu dans le cadre du festival au conservatoire de Clair-sur-Rhône. C'est la deuxième année que j'interviens là. Donc le premier jour dans le grand auditorium, on avait pratiquement tous les adolescents et pratiquement tous les adultes. Et donc on a fait un travail plus sur le son, parce que souvent on apprend à jouer de la musique, mais on n'apprend pas comment régler un ampli, qui joue fort, qui joue doucement, faire une balance, faire des réglages, tout ça. Donc on a pris vachement de temps avec ça. Il est passé à peu près une quarantaine d'élèves. Et puis le lendemain, hier, j'étais avec un groupe constitué, donc une classe au conservatoire de musique actuelle, parce que il faut arrêter avec les clichés au conservatoire. Il y a aussi l'apprentissage des musiques actuelles. Il n'y a pas que le quatuor à cordes, que tout ça, même si c'est très important. Et donc du coup, j'ai fait un peu ce qu'on appelle un travail de producteur scénique, c'est-à-dire qu'ils avaient répété leur morceau. Je suis très peu intervenu parce qu'ils avaient beaucoup travaillé, donc il n'était pas question de les déstabiliser. Je suis plus intervenu sur comment se tenir sur scène, quels sont les échanges, comment on rentre, comment on quitte une scène. Tout ce travail que font pas les professeurs, parce qu'ils sont pas là pour ça, ils sont là pour enseigner la musique, même s'ils donnent des petits conseils. Et donc j'adorais faire ça. Je crois que les élèves sont contents. Et demain soir, c'est le premier groupe, la première partie, ça sera donc ces élèves qui monteront sur scène pour 5 morceaux de blues. Et ça, c'est chouette. Je suis content. Ouais.
Jacques Bon, il faisait des interventions, mais plutôt sur l'histoire du blues. Hein. Ouais. Voilà, c'était plutôt son truc. Hein. Ouais. Avec l'évolution du son, entre autres, ouais. À travers tout ce qui a pu traverser le blues, tout ce qui a percuté le blues. Ouais. Quoi.
Moi, il m'arrive de faire ça, parce que bien sûr, comme beaucoup de gens qui... quand tu fais une discipline artistique, quelle qu'elle soit, je crois que bien sûr il y a des génies purs qui ont besoin de rien, mais je crois avoir une bonne culture, savoir ce qu'on fait tes pères avant toi, c'est vachement bien. Et donc voilà, comme tu disais, Jacques Bon, il y a plein de gens comme ça qui font un peu œuvre de pédagogie, et surtout de replacer le blues dans l'histoire du dernier siècle, parce que c'est une musique vachement moderne finalement, parce qu'elle n'est pas si vieille que ça.
Pour toutes celles et ceux qui écoutent du rap, du hip-hop,
ben, savoir.
C'est intéressant, il y a des choses qu'ils ont besoin de découvrir aussi.
Exactement, tu vois, j'avais un projet justement sur l'histoire du blues qui s'appelait De Bamako à Chicago, où on partait vraiment des champs de travail jusqu'au rap, et je finissais avec un morceau de Kendrick Lamar, qui est un rappeur, oui. Voilà, où justement son texte est complètement blues, quoi, si tu écoutes, voilà.
Okay. Alors un petit mot pour terminer quand même, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus, sur ton parcours géographique, on va dire, de Marseille à la Bourgogne. Bon, j'imagine que ça appartient à la vie privée, hein, malgré tout, on a été surpris de voir que tu avais quitté Marseille pour atterrir dans un bourg médiéval en Saône-et-Loire.
Ouais, je crois comme beaucoup de gens, je grandis à Marseille, j'ai fait mes premières armes musicales à Marseille, j'ai beaucoup joué à Marseille, mais arrivé à un certain âge, j'avais besoin, notamment par une histoire familiale, de me mettre au vert et me mettre dans un endroit, et la Bourgogne a su m'accueillir. Bien sûr, Pinot Noir, Chardonnay, t'imagines. La bouffe, on n'en parle pas. Et ça, c'est central pour tourner. J'ai la chance de pas mal tourner depuis des années. Et donc, les gares sont pas loin, l'autoroute est pas loin. Et finalement, ça, c'est central pour tourner. Et c'est pas mal. Mais par contre, les musiciens restent à Marseille. la boîte de production, la Clique Production, est marseillaise. Et donc, j'ai toujours cette attache à Marseille, en plus de mes attaches personnelles, les attaches professionnelles restent à Marseille. Ouais.
En quoi la géographie peut influer sur la musique, ou pas, d'ailleurs?
Alors moi je trouve qu'elle influe beaucoup sur la musique. Je trouve que c'est toujours pareil, se déplacer. On a une sorte de confort quand tu fais de la musique dans ta ville depuis 15 ans, 20 ans. Il y a une sorte de ronron, tu rencontres les mêmes programmateurs, les mêmes musiciens. C'est super confortable. Donc déjà d'arriver dans une région, entre guillemets, se faire un nom dans cette nouvelle région, commencer à rencontrer des musiciens, des programmateurs et tout, c'est vachement important, ça pousse au cul. Et moi, j'entends souvent des Parisiens, des Marseillais, des Lyonnais qui me disent « Ouais, putain, je me fais chier, il n'y a pas assez de musique à Marseille ou à Paris ou à Lyon. » Je dis « Ouais, mais parce que tu ne bouges pas, mon ami. » Et donc, je crois qu'à un moment donné, et c'est un peu comme le hobo, le bluesman, avec ce mythe tu vois, du hobo, du vagabond, quoi. Je crois que c'est très important de bouger un petit peu, pas se forcer forcément, mais d'oser bouger, d'aller voir. La France est un magnifique pays, déjà rien que les paysages, tout ça, d'aller bouger et voir ce qui se passe ailleurs. Et des fois ça change un peu ta musique, parce que tu rencontres des nouveaux musiciens, tu es dans un nouveau cadre. Moi je crois que ça peut influencer, ouais.
Merci beaucoup.
Je t'en prie.
Très cher, et puis très bon concert tout à l'heure.
Merci.
I need you by my side, my family.
Intercalé en interview, autre chanson de Blue Legacy, un titre empli d'espoir, Hope for Tomorrow. Et à l'instant, la chanteuse d'origine malienne Fatoumata Diawara et la chanson Somao, puisée dans son dernier LP solo, London Co. Fatoumata qui vient de retrouver Mathieu Chedid, alias M, pour un nouvel épisode de L'Amomali, fruit d'une fructueuse collaboration entre ces deux artistes. Il est temps de remercier Gaël pour la production de cette émission, car nous arrivons au terme de ce Crossroads, ainsi que Sylvie pour le montage de ces interviews. On conclut ce Crossroads riche en paroles et en musique avec Joyce Tape, présente le 4 avril à Salès Blues. D'origine ivoirienne, mais vivant en France depuis un certain temps, Joyce milite pour un développement harmonieux en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. À cet égard, elle vendait, en plus de son CD au festival, du chocolat d'origine ivoirienne en soutien aux producteurs locaux. CD intitulé Hélène, le titre que je vous propose se nomme tout simplement « Je suis artiste ». Salut et à bientôt. Elle fait ceci, elle fait cela.